Bonjour, je suis le docteur Costescu, professeur agréé d'obstétrique et de gynécologie à l'Université McMaster, où je travaille en tant que spécialiste de la planification familiale et de la santé sexuelle. Je fais partie d'un groupe qui a assisté virtuellement à la conférence de la Société européenne de gynécologie qui s'est tenue à Venise en novembre dernier. Nous voulions vous fournir un accès rapide à une partie du contenu de certaines des séances dans l'espoir de vous aider à obtenir des atouts pour votre pratique clinique. J'ai le plaisir de vous présenter le docteur Jacques Balaila, qui va nous entretenir sur une des séances auxquelles il a participé. Docteur Balaila, parlez-nous un peu de vous et de ce que vous avez appris.
Je vous remercie, docteur Costescu. Je suis heureux de me joindre à vous et ce fut un plaisir d'assister, je crois, à cette troisième cérémonie, à cette présentation, dis-je bien. Je suis gynécologue obstétricien, j'exerce à Montréal, au Canada, et je suis affilié à l'Université McGill. Je m'intéresse à la science clinique surtout et à l'épidémiologie périnatale, mais aussi en dilettante, à la recherche sur la fertilité et aux solutions en matière de préservation de la fertilité. Je suis donc très heureux d'avoir choisi de vous parler de ce résumé aujourd'hui et j'espère que vous l'apprécierez autant que moi. Comme le Dr Costescu vient de le mentionner, il s'agit d'un résumé du congrès de la Société européenne de gynécologie, ou SEG, qui a eu lieu en Italie. Il s'agissait plutôt du programme des ambassadeurs de Bayer pour la réunion du comité de rédaction du congrès. Voici le titre du résumé. Le pronostic défavorable d'un faible taux d'HAM est-il le même pour les femmes jeunes et les femmes âgées? Ce résumé a été présenté par la docteure Joëlle Belaïche-Allard de France. Pour commencer, nous allons parler un peu du contexte général, du mythe du, entre guillemets, bon taux d'HAM. Nous savons, en tant que gynécologue obstétricien, que nous voyons de plus en plus de femmes qui repoussent le moment de la maternité et demandent une évaluation de leur fertilité, parfois même avant d'avoir essayé de concevoir un enfant. Leur idée est de déterminer si elles peuvent raisonnablement et en toute quiétude attendre. Ou plutôt, elles veulent déterminer si elles passeront à côté de leur fertilité naturelle. Dans la population infertile, nous savons que l'hormone antimullérienne, ou HAM, est un excellent facteur prédictif de la réponse ovarienne aux techniques de procréation médicalement assistée, mais faiblement associée à l'anidation ou à un taux de grossesse et de naissance vivante. La question qui se pose alors est la suivante. Qu'en est-il de l'utilisation de l'HAM dans la population générale? Ainsi, les questions relatives à ce sujet abordées dans le résumé que nous examinons aujourd'hui sont les suivantes. Étant donné que le taux d'HAM ne varie pas généralement au cours du cycle menstruel, celui-ci pourrait-il servir à établir un pronostic de fertilité dans la population générale? Deuxièmement, quel est le taux d'HAM chez les femmes qui ne veulent pas de bébé? Point peut-être le plus important encore pour le sujet dont il est question, dans la population infertile, le facteur pronostique ou la valeur pronostique du taux d'HAM est-il indépendant de l'âge? Il s'agit donc de l'âge de la mère. Du moins jusqu'à il y a quelques années, nous savions que la valeur du taux d'hormone antimullérienne dans la population générale, lorsqu'on ne tient pas compte des techniques de procréation médicalement assistée, était entre guillemets contradictoire. Mais nous avons appris au fil des ans que ce n'est pas vraiment le cas. Nous expliquerons cela dans un instant. L'American College of Obstetricians and Gynecologists a indiqué en 2019 que l'utilisation du taux d'hormone antimullérienne pour offrir du counseling en matière de fertilité à des femmes n'ayant reçu aucun diagnostic d'infertilité n'est pas actuellement soutenue par des données probantes suffisamment solides. Étant donné que dans les faits, le taux d'HAM à lui seul semble inutile pour prédire le temps d'attente avant une grossesse, celui-ci ne doit pas servir à conseiller les patientes à cet égard. On a donc conclu qu'à l'heure actuelle, on ne recommande pas de réaliser des analyses systématiques du taux d'HAM pour prédire une grossesse. Encore une fois, cela concerne la population générale. Qu'en est-il de la valeur du taux d'hormone antimullérienne chez les femmes qui ne veulent pas d'enfants au moment de vous consulter? C'est un peu la bonne fausse idée du bilan de fertilité. Avons-nous dit que c'est une bonne idée de procéder à un bilan de fertilité simplement parce que celui-ci permet d'évaluer le mode de vie, le statut tabagique, le régime alimentaire, le poids, l'environnement, tous les éléments pouvant avoir une incidence sur votre fertilité naturelle. Cela vous permet également d'entrer en contact avec votre médecin, votre professionnel de la santé, et d'établir cette relation thérapeutique en vue d'une grossesse ultérieure. C'est toutefois une mauvaise idée de procéder à un bilan de fertilité, car il n'existe véritablement aucun marqueur de fertilité idéal. Le moins mauvais marqueur est, entre guillemets, l'âge de la femme. Néanmoins, cela ne s'applique pas aux situations de préservation de la fertilité, auquel cas la valeur du taux d'HAM, en particulier durant la préparation des cycles stimulés, est en fait vraiment importante. Qu'en est-il de la population infertile? Quelle est la valeur pronostique de l'hormone antimullérienne? Nous savons, par exemple, qu'une étude importante a été publiée dans la revue Fertility and Sterility par Powell et ses collègues, qui ont évalué la valeur prédictive du taux d'HAM en regard des naissances vivantes en utilisant, ou plutôt en suivant, des techniques de procréation médicalement assistées. Ils ont analysé 85 000 cycles de fécondation in vitro et ont constaté un léger avantage, mais à peine statistiquement significatif, c'est-à-dire que l'intervalle de confiance dépassait 1. Les taux d'HAM étaient légèrement plus élevés dans le groupe de naissances vivantes que dans celui des naissances non vivantes. Encore une fois, il s'agit d'un résultat très légèrement significatif sur le plan statistique, qui pourrait donc ne pas être cliniquement significatif. Ainsi, pour les patientes qui ont recours à des techniques de procréation médicalement assistée, le taux d'HAM s'est révélé utile pour aider à choisir les techniques proposées, les protocoles de stimulation ovarienne et les doses de gonadotrophine. En pratique, la détermination de ce taux est recommandée par la Société européenne de reproduction humaine et le National Institute for Health and Care Excellence depuis 2013. Mais la valeur pronostique est en fonction de l'âge de la femme. Ainsi, le taux d'HAM a une valeur prédictive limitée pour les résultats de FIV pour les valeurs extrêmes de la période d'activité génitale de la femme, c'est-à-dire très tôt et très tard dans la vie reproductive de la femme. En revanche, dans les cas de faible taux d'HAM, la probabilité de tomber enceinte est raisonnable si la patiente n'est pas trop âgée. C'est-à-dire que l'âge a une valeur prédictive du taux de grossesse et de naissance vivante plus importante que la concentration d'HAM. Ainsi, le message clé est donc que les taux d'HAM ne doivent pas et ne peuvent pas être utilisés comme facteur prédictif indépendant des résultats en matière de procréation. Dans le cadre de l'étude rétrospective qui a été menée en France par l'auteur et ses collègues dans un seul centre de 2012 à 2018, 3215 cycles ont fait l'objet d'une observation et leur cohorte a été séparée en trois catégories. Les femmes de moins de 35 ans qui ont subi de nouveau des techniques de procréation médicalement assistée, celles âgées de 36 à 38 ans et celles de plus de 38 ans. Cette étude a été menée de 2012 à 2018. Alors, quels ont été les taux d'accouchement par prélèvement d'ovocytes en fonction de l'âge et des valeurs du taux d'HAM? Une fois encore, la cohorte a été séparée en trois catégories. Femmes de moins de 35 ans, catégorie elle-même scindée en deux, une classification binaire du taux d'HAM, soit inférieur à 1 et supérieur ou égal à 1. Comme nous le constatons une fois de plus ici, chez les femmes de moins de 35 ans, un faible taux d'HAM est en fait associé à un taux de naissance vivante significativement plus élevé que chez les femmes de plus de 38 ans présentant des taux d'HAM comparables. C'est-à-dire que l'âge semble être, une fois de plus, un meilleur facteur prédictif du taux de réussite et d'accouchement que le taux d'HAM en soi. Cela s'applique aussi aux femmes de 36 à 38 ans. Nous pouvons donc de nouveau constater que l'augmentation de l'âge de la mère représente vraiment le meilleur facteur prédictif de réussite ou d'échec du cycle de procréation médicalement assistée. Quel est le taux d'accouchement actuel associé au prélèvement d'ovocytes chez les femmes dont l'âge constitue un cas défavorable, selon les prédictions? Selon la définition applicable ici, un cas défavorable correspond à un taux élevé d'hormones folliculostimulantes, ou FSH, et à un faible taux d'HAM. La cohorte a de nouveau été scindée en deux, femmes de moins de 38 ans et femmes de plus de 38 ans présentant des taux de FSH supérieurs à 10 et des taux d'HAM inférieurs à 1. Nous constatons une fois de plus, et ce même dans les entre guillemets, cas défavorable de femmes de moins de 38 ans, que les taux d'accouchement étaient nettement supérieurs à ceux des femmes de plus de 38 ans. Une fois de plus, cela indique que malgré une faible réserve ovarienne, les femmes plus jeunes ont de meilleurs taux de grossesse. Nous en concluons donc que de nos jours, en 2021, au-delà de toute controverse ou de tout doute raisonnable, le taux d'HAM est vraiment utile pour sélectionner les protocoles de stimulation ovarienne, adapter les doses de gonadotrophine et éviter le syndrome d'hyperstimulation ovarienne. Ainsi, le message clé, lorsqu'il s'agit d'offrir du counseling à nos patientes, consiste à discuter de l'utilisation du taux d'HAM pour prédire les taux de réussite, en particulier chez les jeunes femmes, et à ne pas exclure les jeunes femmes possédant une faible réserve ovarienne, car leur pronostic de grossesse peut en fait être assez bon, même dans les cas, entre guillemets, défavorables. En conclusion, chez les femmes infertiles, le taux d'HAM est un outil de gestion utile, et sa valeur pronostique est claire chez les femmes plus âgées. Mais il ne doit pas être utilisé pour exclure les plus jeunes femmes des techniques de procréation médicalement assistée ou leur annoncer un mauvais pronostic. Dans la population générale, toutefois, on ne dispose à ce jour d'aucune probante montrant que l'HAM constitue un marqueur de fertilité. Encore une fois, il n'existe aucun marqueur fiable de la fertilité autre que l'âge de la femme. Il n'est aucunement indiqué d'évaluer le taux d'HAM à titre de test de fertilité chez les femmes plus jeunes. Malgré le fait que le taux d'HAM puisse ne pas permettre de prédire des naissances vivantes dans la population générale, celui-ci demeure toujours utile dans cette population qui, cherchant à préserver sa fertilité, pourrait avoir besoin d'un protocole de stimulation adapté à chaque cas. Par conséquent, ce que je retire de cette étude, que j'ai trouvée très intéressante et conforme aux résultats publiés sur la valeur pronostique des taux d'HAM, c'est que les questions posées sont vraiment pertinentes à examiner, en raison de l'importance de l'utilité de ce taux qui n'a pas encore été entièrement élucidé. Le taux d'HAM pourrait être utile dans le cas de femmes cherchant à préserver leur fertilité, mais comme nous le savons, pour la population générale, celui-ci ne fournit pas d'informations. Nous devrions donc axer nos séances de counseling sur l'optimisation des chances de fertilité en fonction de l'âge de chaque patiente en abordant les facteurs liés au mode de vie qui peuvent réellement améliorer la fertilité naturelle. Dans la population infertile canadienne, dont la distribution des taux d'HAM est comparable en fonction de l'âge, les résultats de cette étude pourraient en fait être extrapolés à notre pratique. Mais encore une fois, pour vraiment évaluer la réserve ovarienne, l'âge demeure le facteur le plus important. Cela confirme aussi les idées reçues sur l'importance de l'âge dans la population infertile. Ce que j'ai trouvé intéressant, mais qui n'a pas entièrement été traité dans cette étude particulière, c'est l'utilisation potentielle du taux d'HAM dans la population générale pour établir le diagnostic de nombre d'affectations, notamment la ménopause ou le syndrome des ovaires polykystiques, tous deux actuellement étudiés en regard des différences dans le taux d'HAM.
Merci beaucoup, Dr. Balayla. Il est toujours important pour nous de passer en revue les sujets pour lesquels la gestion des ressources est vraiment précieuse, n'est-ce pas? Un test non financé ou financé avec beaucoup de restrictions est actuellement offert dans de nombreuses régions du pays, en vue d'essayer de comprendre l'utilisation des ressources, ce qui est vraiment important en particulier. Par exemple, moi-même, en tant qu'omnipraticien, j'oriente des patientes vers des cliniques de fertilité. Et parfois, nous avons cette envie de vouloir aider nos collègues en commandant des tests à l'avance. Vous avez soulevé la question de l'âge à plusieurs reprises en tant que facteur prédictif. Je me demande si vous pourriez aider les cliniciens qui nous regardent en leur expliquant la façon dont vous conseillez vos propres patientes à propos de l'âge. Avez-vous en tête certains chiffres à utiliser auprès des patientes plus jeunes qui essaient de savoir si elles devraient commencer à essayer ou à s'inquiéter?
Oui, bien sûr. J'ai tendance à parler principalement de deux critères lorsque j'essaie d'offrir des conseils en matière de fertilité aux patientes. Principalement, cela a lieu dans un milieu de soins généraux et non dans une clinique de fertilité en tant que telle. Il est certainement question d'âge et nous avons l'intention d'utiliser 35 ans en tant que seuil associé à une réduction considérable de la réserve ovarienne. C'est généralement à ce moment-là que j'ai tendance à aborder le sujet, en particulier chez les patientes qui présentent soit certaines affections reconnues pour être associées à la fertilité, ou encore chez les patientes qui se trouvent dans une situation sociale qui pourrait nécessiter une cryoconservation ovarienne ou qui pourrait favoriser l'adoption de celle-ci. L'autre facteur que j'ai tendance à utiliser, qui n'a pas non plus été abordé dans le cadre de cette étude, ce sont les antécédents obstétricaux de la patiente. Une patiente qui tombe enceinte assez facilement et qui est tombée enceinte plusieurs fois, dont le partenaire n'a pas de problème d'infertilité connu, du moins en ce qui le concerne, tout cela est habituellement pris en compte dans cette théorie, qui conduit à penser que même lorsque la valeur biochimique peut indiquer un taux d'HAM faible ou un taux de FSH élevé, les antécédents obstétriques sont en fait un facteur prédictif de réussite plutôt fiable dans l'avenir. Tant que la dernière grossesse remonte à moins de 20 ans et que la femme essaie, une fois de plus, de concevoir à un âge significativement plus élevé. C'est en quelque sorte mon approche. Évidemment, en contexte, j'ai tendance à ne faire passer aucun test de fertilité chez les patientes de la population générale. Au lieu de cela, nous utilisons ce temps pour parler des attentes de la patiente, de toute maladie ou affection chronique qui pourrait éventuellement avoir des répercussions sur la grossesse ou l'entraver, puis discuter des variations naturelles du cycle menstruel et de la fenêtre naturelle de fertilité au cours de laquelle une femme pourrait avoir des rapports sexuels dans le but de concevoir. Lorsque ces doutes sont levés et que la femme a reçu une séance de counseling préalable à la grossesse, ce qui, à mon avis, est propice au bon déroulement de la grossesse, alors si elle a moins de 35 ans, j'ai tendance à la laisser attendre un an avant de l'orienter vers une clinique de fertilité. Et si elle a plus de 35 ans, nous avons tendance à attendre tout au plus 6 mois, en supposant, encore une fois, que sa santé a été optimisée et qu'il n'y a pas d'affectation associée à l'infertilité qui pourrait entraver ce processus.
En vous adressant à ce type de patiente inquiète, quels sont les 3 conseils que vous donneriez à la femme canadienne moyenne pour l'aider à améliorer ses chances de fertilité et à optimiser son état de santé avant la grossesse? Quels sont les points à retenir pour ces personnes?
Je recommande certainement toujours de connaître son corps et son cycle menstruel, ainsi que d'essayer de comprendre l'activité, peu importe la mesure dans laquelle cela est possible, les courbes de température ou la présence de douleurs au milieu du cycle causé par l'ovulation. Il suffit de savoir quand vous risquez de tomber enceinte. Ainsi, lorsque viendra le temps de tomber enceinte, vous connaîtrez le moment exact où il sera adéquat de le faire. Certainement, s'il y a un problème de santé chronique, quel qu'il soit, d'ordre psychologique ou physique, j'ai tendance à vouloir tenter d'y remédier d'une manière ou d'une autre. Enfin, vous savez, en commençant certainement par la préconception, vous pouvez prendre vos vitamines prénatales et optimiser tous les médicaments que vous prenez, par exemple, qui pourraient entraver votre capacité à tomber enceinte, puis passer par le processus de préconception, au cours duquel vous essayez de sevrer vos patientes, notamment de certains médicaments tératogènes avant qu'elles ne tombent enceintes. Mais aussi, par exemple, en faisant appel à vos collègues pour vous donner un coup de main, au besoin, afin d'optimiser les chances de tomber enceinte. Il n'y a donc pas de protocole standard pour chaque patiente, mais je pense qu'en fonction de la situation de chacune d'entre elles, j'aurais tendance à essayer différentes solutions, afin qu'au moins, elles puissent être à l'aise avec le plan et que, de manière objective, nous puissions aller de l'avant et qu'elles puissent essayer de concevoir dans les mois suivants.
Merveilleux. Vous savez, en tant que personne qui travaille dans le domaine de la contraception, je pense qu'il est toujours important. Vous savez que vous et moi, nous pensions à l'envers du processus, c'est-à-dire au moment du retour à la conception et à la fertilité. C'est toujours génial de penser à ces choses. Dr. Balaila, merci beaucoup de nous avoir consacré du temps, de nous avoir fait profiter de votre expertise et de nous avoir révélé vos intérêts.
Je m'en réjouis. Merci beaucoup.